Salut et bienvenue dans Théo Café, le podcast qui t'apporte les meilleurs conseils pour entreprendre sur un plateau. Je suis Théo Maréchal et chaque semaine, je vais te donner les recettes qui m'ont permis d'entreprendre seul et de voyager en restant libre. Je recevrai également des entrepreneurs et des créateurs qui vont nous raconter comment ils ont réussi à créer un business viable pour transformer leur travail en passion. Une chose est sûre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais j'espère que si tu as cette volonté d'entreprendre, peu importe ta situation, ce podcast puisse te pousser à réaliser tes projets. Alors, assis-toi confortablement, fais-toi couler un petit café et déguste ces discussions passionnées. Et sans plus attendre, on va commencer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Théo Café. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Antoine Legendre, qui est le fondateur et le CEO de Freebie. Alors Freebie, si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui est génial, qui permet aux freelances de gérer facilement leurs déclarations, leur comptabilité et leur devis pour toute leur gestion administrative de freelance. Et voilà, je trouve sa démarche vraiment géniale et c'est pour ça que je l'ai contacté. Il va nous raconter comment est-ce qu'il a créé son produit, comment est-ce qu'en étant freelance, il a eu cette idée, comment est-ce qu'il a gérer toute la création de son SaaS, de son outil, sans avoir de développeur. Enfin, il était avec un développeur, mais en freelance. Voilà, il va nous raconter plein de choses sur toute son expérience. J'espère que vous allez aimer cet épisode. Et sans plus attendre, on va passer au podcast du jour avec Antoine. Salut Antoine, ravi de t'accueillir sur mon podcast, sur le podcast Théo Café. Alors, en fait, je t'ai découvert il y a un peu plus d'un an avec cette super histoire qu'on vient de se raconter en off, l'histoire que je cherchais un outil pour gérer ma comptabilité quand j'étais auto-entrepreneur sur Amazon. Et en fait, à l'époque, tu m'avais répondu et tu m'avais dit que vous étiez pas spécialisé sur cette verticale, mais c'est comme ça que j'ai découvert Freebie et c'est un produit que j'ai trouvé génial, et même s'il n'était pas adapté à moi, il est adapté à tous les autres freelances. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui pour discuter un peu de comment est-ce que tu as monté ce projet, de comment est-ce que tu adresses ce problème qui concerne à peu près tous les freelances. Mais avant ça, en fait, je voulais te demander si, en tant qu'entrepreneur, quelle a été ta première aventure entrepreneuriale, et par ça, j'entends vraiment la toute première aventure entrepreneuriale, et ça peut être, je sais pas, vendre une citronnade à la kermesse de l'école ou je sais pas, vendre à une brocante. Voilà, si t'as une anecdote comme ça à raconter sur ta première aventure entrepreneuriale, et puis après tu peux dérouler plus sur ton background et un peu ce que t'as fait jusqu'à Freebie.
Eh ben écoute, salut Théo, merci pour l'invitation. Première anecdote, je sais pas si tu fais référence à ça, mais c'est vrai que je m'étais fait une petite carte de visite à 10 ans pour rien du tout, puisque c'était pas du tout, mais j'avais fait ça sur Paint et c'était assez marrant parce que ça montrait bien que où ça allait m'emmener. Et je me souviens que j'avais une crête verte avec des cheveux verts et tout, enfin n'importe quoi. Mais non, pour de vrai, la première entreprise, vraiment le premier projet, c'est un collectif artistique que j'ai monté il y a plus de 7 ans, où en fait on a un collectif artistique avec des artistes graphiques et des artistes musicaux, et on organise des événements, on sort des albums, on fait du mapping, on couvre des événements plutôt artistiques et culturels, et donc ça, je l'ai monté avec deux amis, et qui tourne encore beaucoup moins qu'avant, mais qui tourne toujours un petit peu, quoi.
Ok, tu l'as gardé depuis 7 ans et t'es toujours autant investi ou t'es un peu moins investi mais le projet continue?
C'est plus ça, ouais, le projet est continu mais je suis un peu moins investi. C'est vrai que avant, quand j'ai lancé ça, j'avais pas Freebie, j'avais pas d'autres projets à côté. Ouais. Et du coup, c'était vraiment pour organiser des événements, et du coup, moi je suis designer de base, et du coup, je m'occupais de toute la partie DA, et en fait, je fais un peu de mapping avec les projections derrière le DJ pour habiller les DJ booths, et donc on faisait en fait à chaque fois une sortie par an, et à chaque fois on voulait que ça soit un peu différent. Donc tu vois, un jour on a sorti un jeu de cartes qu'on a designé toutes les cartes une par une, avec à chaque fois couplé un CD et un poster, et après on faisait des release parties pour aller diffuser ça, donc surtout dans la musique électronique, mais il y a un peu de tout au final.
Ok, bah super cool. Et du coup, est-ce que c'est un peu ça qui t'a mis le pied à l'étrier du design, ou est-ce que t'étais déjà passionné de design avant?
Bah, c'était en même temps que je commençais mes études dans le design et tout, mais c'était vraiment, en fait, quand j'étais plus petit, ça n'existait pas encore, designers dans le web ou quoi que ce soit, mais je savais que je voulais bosser sur des ordis, dans l'informatique à l'époque, c'est comme ça qu'on disait. Et le seul métier de designer sur ordinateur, c'était infographiste, quoi. Il y avait le webmaster et l'infographiste, quoi. Et du coup, c'était dans cette direction que je voulais aller, mais je savais pas du tout dans quoi. Et c'est vraiment mes études dans le web qui m'ont orienté dans le design, et plus particulièrement dans l'UX et le product design, quoi.
Ok, d'accord. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est un peu à ce moment-là que tes premières véritables ambitions entrepreneuriales, ou du moins freelance au début, arrivent. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette époque-là, l'époque qui précédait Freebie, qu'est-ce que tu faisais? Et voilà, comment est-ce que tu es passé je crois que c'était un stage, comment est-ce que tu es passé de ce stage au statut de freelance, et pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que à l'époque, c'était quand même un petit peu moins connu qu'aujourd'hui, et c'était peut-être un petit peu moins en vogue. Donc voilà, comment est-ce que tu as transformé ce stage en freelance?
Bah, du coup, je me suis mis en freelance en même temps que mes études. Quand j'ai commencé mes études dans le web, j'ai fait une école qui s'appelle l'EMI, où on fait vraiment du web design, marketing et développement en première année. Et après, on se spécialise dans un des trois domaines qui nous convenait le plus. Et donc, je me suis spécialisé en design. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé mon statut, parce que j'ai deux, trois profs qui m'ont dit, je pense que ça te correspondait bien, correspondrait bien. Et en plus, mon père était indépendant dans le bâtiment, donc rien à voir. Mais il avait son entreprise et il avait ses bureaux chez moi quand j'étais petit. Donc, c'est aussi ça qui m'a un peu mis dans le bain de l'indépendance, et au final je n'ai jamais été salarié, et j'ai tout de suite commencé en free, le fait de se mettre en freelance en même temps que ses études, ça permet en fait de pas courir derrière l'argent, de pouvoir créer son offre, de pouvoir vraiment tester plein de choses et tester plein de domaines aussi dans lesquels on a envie d'aller, et surtout de pas en fait attendre le salaire à la fin du mois, parce qu'on est en études et du coup on n'a pas forcément besoin de cet argent-là. Et donc pendant 2 ans, ça m'a permis vraiment de construire tout ça, et au bout des 2 ans, quand je suis sorti de ma licence, au final j'étais sur le marché avec 3 ans d'expérience dans le freelancing, et ce qui me mettait un avantage déjà par rapport à d'autres, puisque j'avais déjà des compétences et j'avais déjà un pool de clients qui me permettait d'aller alimenter ma vie de tous les jours. Et en fait, en fin d'études, du coup, en fin d'année de ma troisième année, j'ai fait un stage chez Peugeot, donc dans le groupe PSA. Et donc là, j'étais au studio graphique. Donc on s'occupait d'habiller des IHM en général dans les voitures. Et après, il y a une place qui s'est libérée dans le studio du UX de recherche et développement sur la partie IHM dans les voitures autonomes. Et donc c'était hyper intéressant parce que je m'occupais de designer des services en fait de la personne qui va partir de chez lui jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle, vraiment de tout le cycle de vie de sa journée avec sa voiture. Et donc c'était vraiment une expérience de mobilité au global et plus juste un simple déplacement de personnes. Donc c'était hyper intéressant, et à ce moment-là en fait ils m'ont proposé un CDI pour bosser dessus, mais c'est vrai que moi j'étais en free, j'avais une dizaine de clients simultanés et je voulais pas perdre mon indépendance et je voulais pas en fait être bloqué dans un secteur où en fait au final quand t'es en design dans un secteur comme ça tu peux rien montrer, ça veut dire que tu peux bosser pendant 5 ans sauf que nous on bosse sur des projets à plus de 5 ou 10 ans et du coup tout ce que tu fais c'est forcément confidentiel. Et donc en fait si tu fais 5 ans chez Peugeot à temps plein et que tu veux te lancer sur le marché, tu ne peux rien montrer, quoi. Donc t'as des compétences mais t'as pas de vitrine en fait, et surtout que t'es trop bridé par tout ce qui s'appelle genre driver distraction, c'est que il y a plein de choses que tu peux pas faire dans l'interface dans une voiture que tu peux faire dans le web ou sur un mobile parce que ça pourrait être dangereux pour l'utilisateur. Bref, il y avait pas mal de contraintes comme ça qui ne laissait pas assez libre, et du coup j'ai essayé d'implémenter tous mes process de design, j'ai essayé d'implémenter tous mes outils, tous mes machins, mais déjà quand tu dis que t'es sur Mac, ça va pas. Quand tu dis que c'est un outil hébergé en ligne, c'est confidentiel, donc t'as pas le droit de mettre les données de Peugeot dedans. Donc c'était vraiment très très fermé. Et en fait c'est à ce moment-là vraiment que, comme j'avais pas mal de clients en simultané, j'ai refusé le CDI et je leur ai dit par contre je suis chaud de bosser en 4-5e, donc du lundi au jeudi avec vous, quoi. Et comme ça le vendredi je garde mes clients actuels et je peux continuer à être toujours dans le bain de l'indépendance. Et ce qui a pas mal plu au final à mes managers, parce que j'avais aussi ce regard du web et ce regard qui était toujours à jour, puisque j'étais plonger dans les problématiques actuelles du freelancing et des contraintes du web et des contraintes du mobile qui étaient hyper importantes pour pouvoir concevoir des interfaces dans le futur avec les usages d'aujourd'hui, quoi. Et du coup, ça a pas mal plu à ce niveau-là. Et ils m'ont dit, OK, pas de problème. Et donc, je suis resté en freelance du lundi au jeudi. Et donc, j'ai avancé comme ça pendant à peu près 2 ans sur Peugeot.
Et si on revient un peu sur ton du coup sur ces premières missions un peu de freelance, comment est-ce que tu les as eues, est-ce que c'est du bouche à oreille, est-ce que voilà, comment est-ce que tu es allé chercher tes premiers clients en freelance en étant toujours étudiant?
Bah, du coup, bouche à oreille complètement, des étudiants qui n'avaient pas encore le statut, qu'on leur proposait des missions, qui me les refilaient, et après c'est parti comme ça, quoi. Vraiment, ça, c'était que du bouche à oreille au début, et comme j'étais pas dans cette optique de chercher des clients, j'attendais que ça vienne à moi, et comme j'étais pas illimité en temps non plus, bah ça me permettait de booker des clients quand j'avais pas cours ou des choses comme ça, mais je pouvais pas prendre 10 000 clients non plus, quoi. Et donc j'ai avancé au fur et à mesure, puis un premier, puis un deuxième, puis un troisième, et après en fait j'avais tout le temps des demandes, parce que j'ai toujours essayé d'instaurer une relation de confiance avec mes clients dès le départ, pour justement pas avoir cette partie prospection lourde dans le pipe. Et puis surtout que il y a 10 ans c'était beaucoup, il y avait beaucoup de missions par rapport au nombre de freelancers.
Ok, bah ouais, je trouve ça assez top de faire ça, surtout quand t'arrives en études, c'est pas normalement le truc auquel tu penses en premier de te lancer en freelance. Tu te dis plus, soit je ferai ça après, ou soit je sais pas trop comment faire. Donc je trouve ça assez cool que t'aies eu le courage finalement un peu de te lancer comme ça sans trop te poser de questions. Et du coup, bah t'es resté voilà, donc ces années-là en freelance, et petit à petit, à force d'avoir des missions, c'est là où tu t'es dit qu'il y avait un souci, et c'est peut-être de là qu'a émergé un peu l'idée de Freebie. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment ça a switché dans ta tête et tu t'es dit, OK, là, il faut que je fasse quelque chose?
Bah, c'est exactement ça. C'est que chez Peugeot, en fait, comme j'avais cette dizaine de clients simultanés, donc évidemment, c'était pas des clients à temps plein et tout, ce que j'aurais jamais pu, mais c'était des petites missions ou surtout des missions de suivi. Mais du coup, je prenais ce vendredi pour faire mon admin. Et gérer mes clients, quoi, parce qu'en fait quand t'es en régie tu peux plus du tout répondre au téléphone comme quand t'es chez toi, tu peux plus voilà, t'es pas aussi libre, en fait t'as quand même plus ou moins des horaires, même si elles sont pas imposées parce qu'ils ont pas le droit, mais t'es quand même dans un cadre, t'as un contrat de prestation, donc c'est quand même assez différent. Et du coup le vendredi je faisais ma compta, je faisais mes factures, je faisais mes devis et tout, mais en fait j'avais toujours un mois de retard sur mon Excel. J'avais un petit Excel où je mettais prenais tous les virements d'entrée d'argent, les dépenses, je les rajoutais dedans, je prenais mes factures, je les faisais sur InDesign, je me trompais tout le temps du logo, du numéro de facture, de la date, etc. J'avais tout le temps ces pains en fait devant moi, et je me suis dit, mais en fait j'ai pas le temps de gérer l'administratif, je fais plein d'actions manuelles, toutes les données elles sont disponibles sur le web, j'ai juste à ouvrir 1000 onglets et les rassembler au même endroit manuellement, pourquoi j'ai pas un outil qui permette de le faire automatiquement, quoi. Et c'était vraiment ça qui m'a fait penser Freebie, parce que je voulais passer le moins de temps possible sur l'admin pour me concentrer sur mon job et pouvoir gérer mes clients tout en bossant, quoi. Et cette problématique, c'est que quand j'ai commencé à chercher des solutions sur le web, il y en avait évidemment qui existaient, sauf que c'était des solutions pour TPE, PME, donc en fait les freelances devaient twister les fonctionnalités pour utiliser que 10% et au final payer un abonnement à 90€ par mois pour te générer un bilan comptable alors que t'étais en auto-entreprise, tu vois. Et donc il n'y avait pas cette cohérence, et les outils parlaient à tout le monde, mais du coup ils parlaient à personne, et un freelance qui justement avait des petits besoins, parce que c'est une micro-entreprise, donc des petits business, ils ont pas les mêmes besoins qu'une TPE ou qu'une PME. Et même si on retrouve un socle commun, au final t'as pas les mêmes fonctionnalités, les mêmes besoins total. Et en fait il n'y avait pas d'outils qui étaient assez intelligent pour parler aux freelances et pour être intelligent et automatisé, en fait. Et donc du coup, en fait, les seuls outils qui existaient, c'était plus un tableur dans un SaaS avec une couche de design, mais tu passais autant de temps en fait sur l'outil en ligne tableur que sur ton tableur en local. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment poussé à lancer Freebie, parce qu'il n'y avait pas d'outil qui prenait les missions de A à Z avec une interface totalement repensée pour que ce soit le plus simple, avec une interface fluide et hyper rapide et des bonnes technos et tout. Et en fait, ce qu'on voit souvent, c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui, la plupart des outils de gestion ou de comptabilité qu'on voit sur Internet, ça a été créé souvent par des ingénieurs comptables développeurs ou des comptables qui voulaient vraiment automatiser leur business pour pouvoir adresser des cibles et gagner plus d'argent. Mais en fait, ils n'ont pas forcément été pensés par des designers empathiques, qui fait que nous, on a commencé par la recherche, par exemple. Tu vois, et on n'a pas commencé par un cahier des charges de développement, mais on a vraiment commencé par la recherche avec un psychologue ergonome. Tu vois. Et on a essayé de repenser le SaaS d'une manière à ce que ça soit totalement différent d'aujourd'hui. Donc, de la première partie du SaaS en général, donc comment on fait pour faire un SaaS qui n'est pas comme on peut avoir aujourd'hui, où tu dois toujours avoir un prix en plus si tu n'as pas bien lu tes abonnés, tes renouvelles automatiquement, etc. Ben, tous les trucs qui nous dérangent dans un SaaS, et après, toutes les choses qu'on voudrait avoir dans une interface claire pour faire sa compta. Quoi. C'était vraiment ça les deux points qui m'ont lancé.
Oui, mais je partage un peu ton avis sur la recherche, parce que moi, je suis pareil, exactement la cible. Enfin, si j'avais été plutôt en mode freelance, donc pas forcément en vente e-commerce, mais plutôt en freelance comme la grande majorité des utilisateurs de Freebie, même la presque quasi-totalité. Mais en tout cas, en tant que personne qui aime beaucoup les outils digitaux, etc., c'est vrai que les outils de comptabilité, c'était une horreur pour moi, et au final, ça l'est presque un peu toujours, parce que je suis obligé d'avoir plusieurs canaux pour gérer ma comptabilité, puisque la comptabilité sur Amazon, c'est quelque chose qui est très spécifique et très pénible. Mais le fait est que c'est vrai que toutes les options qu'on a, que ce soit QuickBooks, que ce soit voilà, toutes les possibilités qui existent sur le marché, à chaque fois je me dis, mais comment est-ce que, qui a pondu ça, quoi, et à quel besoin ça répond? Parce que je me dis que ce truc est fait pour ceux qui connaissent vraiment, et c'est-à-dire plutôt les experts comptables, mais pas forcément les personnes lambda comme je pouvais l'être. Et ouais, donc à ce moment-là, c'est pour ça que j'étais tombé justement sur Freebie, parce que j'étais désespéré, je cherchais une solution un peu à mes mots. Mais la première chose qui m'a intéressé, et c'est pour ça que notamment je t'avais envoyé ce message, et que j'avais envie d'essayer de trouver une solution et de pouvoir l'utiliser dans mon cas précis, c'est que l'expérience utilisateur était top. Et voilà, justement, est-ce que tu peux nous parler de cette recherche, de tout ce processus de recherche que vous avez fait en amont? Quelles étaient un peu vos questions et vos idées? Et peut-être quels ont été les plus grands enseignements que vous avez tirés de toute cette période un peu d'enquête avant de créer le produit?
C'est exactement ça, et je pense qu'aujourd'hui on est toujours dans un modèle où on est un peu sur l'ancien modèle, et on prend pas le temps de vraiment faire de l'UX et de la recherche qui soit vraiment ce que c'est aujourd'hui. Et du coup, en fait, les personnes, elles choisissent la solution de foncer et de faire tester pour après voir. Mais le problème, c'est que tu perds un temps fou et tu fais pas toute la partie recherche qui va te faire gagner du temps à la fin, quoi. Parce qu'au final, ça prend beaucoup plus de temps à sortir, mais ça plaît beaucoup plus rapidement, et c'est beaucoup plus viral, en fait, puisque l'expérience est déjà bonne quand on lance un produit. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a créé une landing page où on a expliqué le concept qu'on voulait, et on a mis un formulaire d'inscription où là, c'était un type form avec des questions hyper et hyper pointu, parce qu'on voulait exactement savoir qui c'était qui voulait s'inscrire sur ce service. Et donc c'était un peu tricky, parce qu'il y avait des questions, voilà, on demandait le chiffre d'affaires, on demandait type d'entreprise, on demandait enfin plein de trucs. Mais en fait, on se disait, on a cette volonté de construire un programme de bêta test pour vraiment co-construire avec nos utilisateurs le produit. Et si on veut co-construire avec nos utilisateurs le produit, il faut que ce soit des utilisateurs qui ont vraiment envie de tester et qui ont vraiment envie de participer à ce programme de bêta test, et qui n'ont pas envie de s'inscrire juste à une bêta en mettant un mail et en étant prévenu 10 000 ans après. On voulait vraiment que, on s'est dit, si les gens y répondent à toutes ces questions, c'est qu'ils sont vraiment chauds pour continuer avec nous et co-construire le produit, quoi. Et en fait, en quelques mois, on a eu presque 700 adresses mail de gens qui voulaient se préinscrire au service, et du coup on a pu vraiment établir nos personas, et on a pu envoyer des questionnaires assez poussés à toutes ces personnes là pour comprendre mieux qui ils étaient et comment on allait construire le produit. Et ça, c'était vraiment une phase un peu avant de lancer la version bêta. Mais sinon, si on revient vraiment au tout début du concept du produit, quand j'étais toujours chez Peugeot, au final, je me suis fait un prototype dans ma chambre avec liste de mes factures, liste de mes devis, encaissement, dépenses. Enfin, j'avais tout ce qu'il fallait dans ça. J'avais pris un thème HTML avec un peu de PHP, et je m'étais fait mon truc vraiment ridicule, mais qui pouvait, en mode concept, pour prototype pour montrer, quoi. Et en fait, je suis allé prendre des rendez-vous avec tous les freelances qui étaient chez Peugeot. Et le matin, le midi, le soir, en fait, je prenais une demi-heure, une heure avec eux et je leur montrais le produit et je prenais les premiers retours, en fait. Et là, je l'ai vu des...
Et il y avait beaucoup de freelances chez Peugeot ?
Un paquet, ouais. Un paquet, ouais. Et du coup, on était très, très peu... Il y avait très, très peu de salariés dans mon secteur, en tout cas, quoi. C'était beaucoup de prestats. Et du coup, je suis allé voir tous ces prestats et je leur ai posé des questions et j'ai vu tout de suite des étoiles dans les yeux. J'ai dit, mais ouais, c'est ça qu'on veut, c'est exactement ça, c'est ouf, machin, puis on voudrait ça, puis on voudrait ça, puis ça y a pas, puis ça j'aime pas, puis ça m'a faim. Et en fait, je suis allé prendre tous les retours. Et avec ce prototype plus ces retours, et je suis allé voir un développeur et pour aller trouver un dev pour pouvoir coder le projet, quoi. Parce que j'ai quelques notions de code, mais vraiment, moi, je suis plus designer et du coup, je préférais vraiment qu'il y ait une personne spécialisée et expert dans le domaine qui s'occupe de la partie développement. Et en fait, j'avais...
Et justement, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Comment est-ce que tu vas voir un développeur ? Parce que c'est une problématique qui revient souvent. Et toi, je sais que je connais un peu l'histoire. Je sais comment ça s'est passé. Et je trouve que c'est assez intéressant. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment est-ce que t'as eu cette démarche pour aller trouver un développeur et comment est-ce que vous êtes associé pour créer le produit, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément qu'on voit pas forcément tous les jours ce que t'as fait, donc voilà, je suis très curieux si tu peux nous raconter un peu cette histoire et l'histoire aussi de votre rencontre.
Carrément. Du coup, à ce moment-là, je me dis ouais, il faut absolument un dev, et je sais pas dans quelle mesure, parce que moi, pour moi, c'était on s'associe et on monte le projet à 50-50 et on crée le produit, quoi. Et parce que j'avais pas d'argent, en fait, j'avais que mes prestations chez Peugeot et j'avais pas d'argent devant moi à investir vraiment dans le produit, donc je savais que tous les mois j'allais en avoir, mais je savais pas comment je pouvais avoir d'argent sur ce projet. Et du coup, j'ai demandé s'associer avec moi, et lui, à ce moment-là, il pouvait pas, parce que financièrement c'était pas possible et qu'il pouvait pas apporter d'argent non plus dans la structure. Mais du coup, il m'a dit, par contre, moi je suis hyper chaud pour bosser en freelance dessus, sur le produit, quoi. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est s'assurer d'être payé, avancer sur le produit, voir le truc. Parce que en même temps, quand t'as un gars jeune qui arrive vers toi et qui te dit ouais, viens, on monte un projet, on s'associe, ça va cartonner, en fait, les devs, ils en ont eu tellement des comme ça que voilà, il faut vraiment s'assurer aussi de ça. Et en fait, il s'appelle Guillaume, et Guillaume, on avait bossé sur deux projets ensemble en freelance, mais il avait pas assez de recul pour me faire confiance pour s'associer avec moi aussi d'un coup, tu vois. Donc c'est totalement normal sa réaction. Et du coup, il m'a dit voilà, par contre, le projet a vraiment l'air cool, je suis chaud de bosser en freelance dessus. Et en fait, on s'est arrangé, il m'a fait un prix, on a avancé, et au final, moi, mes factures chez Peugeot, ça couvrait son salaire plus ma vie. Donc ça me permettait d'avancer comme ça avec lui à ce moment-là, quoi.
Cette situation, elle a duré pendant combien de temps ?
Ça a duré pendant tout le lancement, quoi. Okay. On a vraiment eu pendant un an et demi. En fait, moi, j'étais toujours chez Peugeot et lui, il bossait dessus tous les jours, et moi, je bossais dessus le soir et le week-end.
Ça aussi, c'est une question qui revient souvent, c'est comment est-ce que tu fais pour gérer cette vie chez Peugeot et en même temps de développer ton projet, parce que c'est quelque chose qui, quand tu es en régie comme ça, que tu passes beaucoup de temps donc du coup chez Peugeot, ça doit être un peu fatigant, tu dois être un peu lessivé après la fin de ta journée. Et comment est-ce que tu arrives à retrouver la motivation de travailler sur ton projet et presque de sacrifier les soirs et week-ends, quoi?
C'était plus frustrant de pas pouvoir bosser sur Freebie quand j'étais chez Peugeot. Parce qu'au début, t'as mille idées, t'as envie de tout faire et tout, mais t'es bloqué parce que t'es en régie, donc tu peux pas bosser dessus, et puis c'est totalement normal. Mais c'est vrai que, en plus, moi, j'ai grandi à Meudon, donc dans le 92, et Peugeot, c'était dans 78 à Vélizy, tu vois. Et du coup, le matin, je partais en voiture, j'arrivais à Vélizy, et après, le soir, je faisais des réunions, on donnait rendez-vous à 20h en plein milieu, l'autre bout de Paris. Du coup, je partais avec ma voiture, je faisais une heure et demie d'embouteillage pour arriver à la réunion, et là, on commençait la réunion à 20h jusqu'à minuit, et on bossait dessus sur toute la soirée. C'était complètement dément, j'avoue, à ce moment-là. Mais c'est vrai que la motivation, elle est là, quoi. Quand t'as un projet et t'es passionné par le sujet, et que t'as envie de le monter, franchement, il y avait la motivation, elle se trouve carrément, quoi. Mais c'est vrai que au début c'était simple, au milieu c'était compliqué, avant de lancer c'était hyper compliqué, mais au final ça a duré vraiment un an chez Peugeot, et en fait je voulais réduire le nombre de jours que je passais chez Peugeot pour pouvoir passer la moitié de la semaine sur Freebie, et ça a pas été possible Ça n'a pas été possible, voilà, pas la hiérarchie qu'on aime, qu'on adore. Et du coup, bah, j'ai dit ciao et je suis parti parce que moi j'avais vraiment envie de me concentrer sur Freebie. Je voulais pas lâcher Peugeot parce que c'était aussi ce qui me permettait d'investir dans Freebie. Mais si c'était pas assez flexible à ce niveau-là, c'était que je devais trouver autre chose. Et au final, j'ai un client qui m'a rappelé, qui m'a dit Antoine, on monte un super projet. J'ai trop envie que ce soit toi qui le conçoit. Du coup, je te prends 2 jours par semaine et en plus j'ai des bureaux qui sont libérés, donc tu peux mettre Freebie le reste de la semaine dans les mêmes bureaux, tu vois. Et j'ai dit ah ouais, belle offre. j'ai dit bon plan et du coup j'ai dit go direct et ça a été une des raisons pour laquelle j'ai réussi à lancer le produit parce que en fait le deal avec Clément, mon client, c'était si je dois bosser sur Freebie, je bosse sur Freebie. Si je dois bosser sur Bridge Audio, je bosse sur Bridge Audio. Mais je pouvais déplacer mes demi-journées comme je voulais, tu vois. Si je voyais que je passais trop de temps sur Freebie, je passais toute la demi-journée dessus. Après, boum, je bifurquais sur Bridge. Et du coup, j'avais vraiment, 2 équipes dans le même bureau et je pouvais switcher d'un écran à l'autre. Donc, c'était hyper simple pour m'organiser. J'avais pas de temps de trajet. J'avais pas tout ça. Donc, je pouvais vraiment switcher en une demi-heure sur un nouveau projet, quoi. Et donc, ça m'a permis, en fait, de pouvoir vraiment continuer à avoir de l'argent qui tombe tous les mois pour investir dans Freebie, parce qu'au final, je réinvestissais 95% de mes factures dans le projet. Et à côté, ça me permettait d'avoir une rentrée d'argent et de pouvoir bosser sur un autre projet et de bosser sur Freebie, du coup, tu vois. Donc, c'était vraiment parfait.
Et du coup, comment est-ce que tu priorises un peu sur cette V1 de Freebie? Quelles a été un peu les fonctionnalités essentielles où vous vous êtes dit il faut absolument ça par rapport au retour que vous aviez eu pendant votre enquête et tous les entretiens que vous aviez fait? Pourquoi est-ce que voilà, quel a été le truc qui a fait que les freelances allaient avoir envie de venir tout de suite?
Moi, ce que je voulais, c'était vraiment que ce soit pas un énième outil de facturation qui parle à tout le monde. Je voulais vraiment que ce soit un outil déjà dédié aux freelances, qui parle aux free, et surtout qui soit intelligent, donc qui connecte toutes les datas ensemble. Et en fait, moi, ce qui me rendait fou, c'était de devoir ouvrir ma banque en ligne et de devoir faire des exports qui ne pouvaient même pas remonter à plus de 6 mois d'export bancaire avec des formats trop bizarres. Et après, je devais tout noter à la main et tout remettre dans mon fichier. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais comment on fait pour récupérer ces données qui sont des données informatiques de mon compte, tu vois. Et donc là, je me dis, ok, je tape sur Google, récupération de compte bancaire et tout. Donc je vois des trucs complètement déments, qui t'adaptaient au grand groupe avec des prix complètement déments, ou alors c'était des connecteurs qu'il fallait faire soi-même avec chaque banque. Donc c'était la galère. Et là, je tombe sur une solution qui permette, en fait, d'avoir une API pour se connecter à n'importe quel compte bancaire, quoi. Et du coup, pour moi, c'était vraiment, en fait, je peux pas lancer le produit si je fais un énième outil de facturation. Il me fallait qu'il y ait de la différenciation au niveau de l'expérience utilisateur. Et donc, je me suis dit, ok, comment on fait pour créer un process de A à Z, du premier point de contact du freelance jusqu'à son dernier point de cette mission, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, il ajoute son client, à chaque fois, il va ajouter son client. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur société.com, il demande à son client quel est son adresse de facturation, tout ça, c'est pas très pro, ça fait perdre du temps. L'INSEE, c'est des données publiques, et pourquoi on mettrait pas la base de données de l'INSEE dans la base de données Freebie pour que tu tapes juste le nom du client et que ça te chope toutes les informations légales, tu vois. Donc en fait, c'était tout ça qu'on a essayé de trouver pour en fait intégrer des API que les autres outils n'intégraient pas, pour faciliter du coup cette vie là, quoi. Et c'était vraiment ça qui m'a donné envie de trouver des solutions différenciantes, automatisées, quoi. Donc l'API avec l'INSEE, l'API de synchro bancaire, l'API de déclaration à l'URSSAF, voilà, donc tous ces trucs là c'était vraiment indispensable pour moi pour lancer le produit, sinon il y avait pas de sens.
Et c'était je me rends pas compte de la complexité d'intégrer ces API là. Est-ce que une fois que tu les avais trouvés, c'était assez simple, ou c'était quand même un gros travail de les intégrer?
La galère. en 2017, rien n'était documenté, c'était encore pas grand chose d'aussi accessible. Mm-hmm. L'open banking était encore loin d'arriver. Mais en fait, l'INSEE, ce qui m'a, pareil, en fait, je me suis pas dit qu'il y avait une API qui faisait ça à la base. Et du coup, on a trouvé un CSV sur le site du gouvernement, là, de l'INSEE. Et le CSV, il faisait 9 gigas. Et avec 16 millions d'entrées. Et donc c'était un truc de dément. Et là je dis à mon dev, ok, il faut qu'on parte ça et qu'on crée notre API avec le CSV, tu vois. Et du coup il commence à partir dans le développement, il commence à parser le CSV, à faire des mises à jour automatiques, à récupérer automatiquement le nouveau fichier. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Il y avait les apostrophes qui passaient pas, il fallait mettre à jour, ça mettait 2h30 à mettre à jour l'API, ça répondait pas. Enfin bref, c'était pas du tout à l'équation avec ce qu'on voulait faire. Mais on a créé notre petite solution maison comme ça pendant quelques mois, mais au final on a vite arrêté parce que on a trouvé une API qui permettait d'avoir les données de société.com en gros directement avec un call d'API, tu vois. Et donc ça c'était beaucoup plus simple après à taper avec eux. La synchro bancaire pareil, c'est aujourd'hui on utilise Bridge API qui est le cœur que utilise Banking en fait, l'application mobile. C'est la même boîte, mais ils ont mis à disposition en B2B leur API bancaire. Et d'ailleurs, j'étais invité hier par le fondateur, on a fait un petit webinaire sur l'importance de la synchronisation bancaire dans la comptabilité. Et en fait, c'était ça, c'était cette API, c'était hyper simple. Et en fait, avec un connecteur, on se connectait à toutes les banques direct. Et donc une API qui est propre, qui est bien faite, qui est bien documentée. Donc ça, on n'a pas eu trop de mal à l'implémenter et c'était rapide.
Et t'avais même les banques néobanques, ouais. Style Shine,
Shine n'existait, enfin n'est pas encore sorti, voilà, il y a toutes les néobanques arrivent au fur et à mesure et aujourd'hui elles sont toutes présentes, Revolut, N26, Shine, Conto, elles sont toutes sur Freebie. Et en plus du coup on n'a qu'une seule API, donc ça c'était vraiment vraiment important pour nous de pas maintenir ces connecteurs parce qu'il y a plus de 450 banques disponibles et on n'aurait jamais pu faire un connecteur des connecteurs comme ça parce que de base le banking c'est du scrapping, donc ils scrapent tes données bancaires pour te les restituer. Donc maintenant il y a des nouvelles lois qui passent avec la DSP2 et tout ça, mais donc c'est plus les banques sont obligées d'avoir des API pour ce genre de service, mais c'est vrai que c'était galère. Et la troisième c'était l'API de l'URSSAF. Je me suis dit ok, mais comment on fait pour déclarer sur ce site de l'URSSAF sans avoir besoin d'aller sur le site tout gauche, hein. Et là, on n'a pas trouvé d'API. Et du coup, on a créé un petit robot qui se connectait à la place de l'utilisateur pour mettre le montant qu'on avait trouvé chez Freebie ou à l'endroit où il devait le mettre dans l'URSSAF, tu vois. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'on vient de terminer un partenariat avec Lacoste, qui est le groupe qui gère l'URSSAF. Et du coup, là, on est en train d'intégrer le site tout rouge dans Freebie, mais avec leur vraie API officielle. Et on devient, en fait, mandataire de déclaration pour les auto-entrepreneurs. Et ils pourront même payer leur déclaration depuis Freebie dans pas trop longtemps.
Bah, ça, c'est plutôt génial parce que ça m'est arrivé un paquet de fois. Alors, c'était l'année dernière, du coup. Où le système de paiement par carte bancaire de l'URSSAF ne marchait pas. Je pense qu'il y a pas mal de freelance et d'auto-entrepreneurs qui ont dû faire face à ça. Et c'était un enfer parce qu'ensuite, il fallait envoyer un chèque par courrier. C'était une galère absolue. Donc, à partir du moment où tu peux maintenant payer par Freebie, ça change quand même pas mal de choses pour les freelances et les indépendants. Et j'aimerais juste revenir du coup sur un peu la timeline de tout ce projet. Est-ce que tu peux nous raconter en mettant un peu des dates et des points clés de l'étude jusqu'au lancement?
Yes. Alors, idée du projet fin 2016. Fin 2016, c'est vraiment là que je me dis ok, j'ai besoin d'un outil comme ça. Début 2017, je commence directement à aller voir le développeur Guillaume. On bosse pendant vraiment un an, enfin vraiment 12 mois, enfin 11 mois sur le produit. Moi je m'occupe de toute la partie vraiment design. On avait fait tous les tests avant, on avait codé tout ça. Et donc là, on a lancé la landing page dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui était vraiment fin 2017. Et début 2018, on a commencé le programme de bêta test. Et donc ça, ce programme, on a vraiment, on avait pris 300 personnes, on avait fait deux types de tests, ceux qui avaient jamais testé Freebie, donc ils découvraient totalement, ou ceux qui avaient testé pendant à peu près un mois. Et du coup, on a eu des retours assez bons et assez différents sur cette partie-là. Et en fait, on a pivoté. Grâce à ces retours, parce qu'on allait droit dans le mur si on n'avait pas fait cette recherche utilisateur comme il fallait, parce que on avait développé un chatbot qui était freebie et qui était conversationnel, avec qui tu pouvais discuter, échanger, avec qui tu pouvais créer des factures, ajouter des clients. Sauf que pour ajouter un client, c'était hyper simple. Tu donnais le nom du client, il te donnait 3 adresses, tu cliquais sur la bonne adresse et c'était fini. Pour ajouter une facture avec de la TVA, des remises, des prestations, de la vente, de la marchandise, etc. C'était impossible à gérer dans un chatbot et ça mettait plus de temps que de le faire au clic, et donc il n'y avait aucun intérêt. Et en fait, j'étais persuadé que c'était le moment des chatbots qui commençaient à fleurir de fou. J'étais persuadé que c'était le bon support. Et en fait, on a fait des tests et on s'est aperçu que ça marchait pas, quoi. Ça marchait très bien, mais c'était pas assez, les utilisateurs n'étaient pas assez réceptifs à faire ça sur un chatbot. Et puis, ça mettait plus de temps qu'au clic. Donc, en fait, il n'y avait aucun intérêt de passer par ce chatbot pour faire ça. Donc, on avait des arts de dialogue de malade. On avait fait tout un truc de fou, quoi. J'avais un dev qui était spécialisé en IA et qui s'occupait d'intégrer les API d'IA qui commençaient à fleurir de langage naturel. Donc ça marchait bien, mais c'était pas du tout ça que les gens voulaient, quoi. Et ça m'a fait me rendre compte que voilà, qu'il fallait plutôt écouter ses utilisateurs que les convictions de ses fondateurs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a revu la partie assistant personnel. Donc on a gardé tout le produit en lui-même, sauf que au lieu que ça soit un assistant personnel conversationnel, c'est un assistant qui va être interactif, où il y aura une action, un clic, une réponse, et tout sera beaucoup plus fluide. Mais en tout cas, c'est vraiment Freebie, l'assistant personnel des freelances, qui va pusher de l'information aux freelances quand il y en a besoin, et c'est avec lui qu'on interagit pour réaliser ses factures, réaliser ses devis, réaliser ses déclarations. On a vraiment en fait humanisé un peu le produit avec Freebie, pour que ça soit beaucoup plus facile dans la communication et dans tout le reste, et que ce soit beaucoup plus sympa d'avoir un assistant personnel pour freelance plutôt qu'une interface trop lourde hyper chaud. Et donc ça, c'était on a début 2018 lancé les bêta tests, et on a en juillet 2018 on a lancé le produit. Donc entre janvier et juillet, on a fait des bêta, on a revu l'expérience du chatbot, donc on a transformé en assistant personnel, on a lancé le produit le 31 juillet 2018. Donc maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on est online.
Et à partir de, enfin, et est-ce que aussi tu peux nous parler justement du comment est-ce que vous avez attiré vos premiers clients, même si je suppose qu'il y en avait pas mal qui étaient dans la bêta qui ensuite ont converti, mais ceux qui étaient dans la bêta, c'était pas forcément convertis ensuite. Comment est-ce que vous êtes allé chercher après ce lancement-là? Est-ce que vous avez eu des stratégies de communication? Est-ce que vous avez fait de la presse pour aller chercher vos premiers freelances, vos premiers utilisateurs, et voilà, et avoir un nombre suffisamment élevé pour que vous puissiez asseoir une ambition de boîte et de le faire passer de projet à boîte?
Mais 31 juillet 2018, j'ai eu la chance d'avoir un article sur Madinès écrit par le fondateur, et ça a fait un beau lancement parce que ça a permis de faire du bruit et de crédibiliser un peu le produit, et j'ai fait énormément de one-to-one. J'ai fait énormément de one-to-one pour aller trouver des nouveaux clients, et en fait on a utilisé un peu ce programme de bêta test pour faire de l'acquisition, où en fait c'était Antoine, le fondateur de Freebie, designer en freelance, qui voulait monter un produit pour aider les freelances à gérer leur activité, et du coup, est-ce que t'as pas un peu de temps pour tester mon produit et me faire un retour, tu vois. Et donc on a vraiment utilisé cette technique pour acquérir des utilisateurs, mais c'était sincère, en fait on voulait vraiment les mettre dans notre programme de bêta, et du coup ils ne nous voyaient pas comme des gens qui allaient leur demander de s'inscrire à leur produit en mode vente, mais et c'était cette démarche en fait de co-construction qui leur plaisait beaucoup, et donc ça nous a permis en fait de pouvoir envoyer pas mal de messages sans passer pour des spammers, et avec une vraie démarche derrière, où c'était pas juste une promesse, c'était qu'ils rentraient dans le programme de bêta test et après ils avaient forcément le psychologue ergonome au téléphone, ils faisaient une visio, enfin il y avait vraiment toute cette démarche de co-construction, donc c'était pas que du bullshit. C'était sincère, donc on a fait vraiment pas mal.
Ouais, surtout que vous l'avez gardé aussi, même aujourd'hui, je trouve, parce que vous êtes, c'est rare quand je note ça, mais vous offrez 30 jours donc à vos utilisateurs qui ont envie d'essayer Freebie, et surtout vous demandez pas la carte de crédit. C'est quelque chose que tous les presque 99% des SaaS demandent, et on sent justement que cette idée là elle date pas d'hier, que ça fait longtemps que vous êtes toujours sur une volonté de faire essayer le produit, et que seulement si vous êtes satisfait, seulement si vous êtes content, vous vous inscrivez et vous restez sur Freebie, mais vous laissez la possibilité aux utilisateurs, aux freelances de pouvoir tester. Et justement, je pense que c'était un bon moyen aussi pour vous de récolter du feedback.
Mais c'est marrant que tu dises ça parce que c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure sur la partie où on a essayé de repenser le SaaS au complet, où c'est exactement ce genre de choses en fait qu'on a vraiment voulu mettre en place dans Freebie, qu'on ne trouvait pas forcément autre part. Donc les 30 jours, c'est relativement correct. Mais par contre, tu vois, la carte bleue, enfin, pour moi, je ne vais jamais tester un service si je dois mettre ma carte bleue avant de le tester, tu vois. Et du coup, si moi je le fais pas, c'est qu'il y a plein de freelances qui sont pareils, tu vois. Et en fait, quand tu mets ta carte, c'est que tu sais que tu vas te faire niquer. et tu sais que tu vas pas recevoir le mail qui va te renouveler, tu sais que tu vas être prélevé, tu sais que machin. Et du coup, ça crée de la frustration avant même de commencer à utiliser le produit, tu vois. Et c'est quand même complètement dément de faire ça aujourd'hui. Et donc, oui, il y a moins de churn, oui, il y a plus d'argent qui rentre. Mais en fait, si tes utilisateurs, ils sont pas contents et que tu les as prélevés sans être contents, en fait, c'est quoi l'intérêt? C'est de faire de l'argent sur leur dos ou c'est de créer un produit pour les aider dans leur galère administrative, tu vois. Et donc, en fait, c'était vraiment ça. C'est que nous, on a cette connaissance du SaaS, bon, parce qu'on a testé des millions d'outils pour nos activités de freelance. Et du coup, on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on veut pas qu'on nous fasse et ce qu'on veut pas faire aux utilisateurs, quoi. Et donc, moi, les premiers points, c'était repenser le SaaS pour qu'il n'y ait pas tous ces genres de petits prix cachés ou ce genre de choses et avoir un service client digne de ce nom, tu vois. Et de pouvoir, en fait, communiquer avec ses utilisateurs et qu'ils aient une réponse dans les 24 heures maximum à leur demande, tu vois. Et ça, c'était vraiment les hyper important pour moi de repenser ce SaaS-là. Parce que pareil, dans les différents SaaS, si t'as pas le pro premium plan à 199 $, t'as pas de support. C'est complètement dément. Genre, la personne, elle a une question et tu peux pas poser tes questions. Donc en fait, bah, tu sais même pas ce que tes utilisateurs ont besoin, tu sais même pas les questions qui se posent et tu sais même pas comment améliorer ton produit derrière parce que t'as même pas les questions de tes utilisateurs, quoi. Et c'était complètement dément de voir tous ces services-là et c'est vrai que ça fait partie des choses qui on met dans Freebie pour justement être différent et avoir des choses différenciantes à ce niveau-là, quoi.
Et même pendant longtemps, moi, quand je t'avais contacté, c'était toi qui m'avais répondu. Et je pense que bah, quand t'es prospect, tu regardes une nouvelle solution, ça c'est toujours un plus quand tu vois que c'est le fondateur de l'outil qui te répond parce que bah forcément s'il y en a un qui connaît bien l'outil, c'est le fondateur et du coup bah ça rassure un petit peu, quoi. Tu te dis ok, c'est pas je sais pas, c'est pas un call center comme je prends par exemple tous ceux qui travaillent donc au customer support dans ces grosses boîtes américaines et qui, dès que tu leur parles d'une fonctionnalité qui est un peu hors de leur scope, ils arrivent pas à te répondre. Donc ouais, c'est vrai que
avec des messages copier-coller, des trucs en fait ils répondent complètement à côté de la plaque, que t'as l'impression de parler à un bot plus qu'autre chose. Et enfin franchement, t'as ça comme expérience de question au départ, tu pars tout de suite, tu vois. Et donc nous, ce qu'on voulait vraiment apporter en plus dans ce support, c'est que ce soit pas en fait un support client, mais c'est d'ailleurs la personne qui s'occupe de notre support qui a amené cette expression qu'il appelle lui expérience client, parce que c'est vraiment une expérience client où on communique avec nos clients et en fait on répond pas oui ou non à leurs questions, mais on répond oui parce que mais tu peux aussi faire ça et si et ça et n'oublie pas de penser à ça et regarde l'article de blog aussi qu'on a écrit. Et en fait on essaye vraiment de créer des discussions avec les utilisateurs plutôt que de répondre à des tickets, quoi. Et ça, c'est hyper important pour quelqu'un qui gère sa solution de, enfin, qui gère sa gestion d'auto-entreprise, de savoir, en fait, qu'il est sûr d'avoir une réponse et d'être sûr d'être jamais bloqué, tu vois. Genre, j'ai des utilisateurs, là récemment, un utilisateur un samedi matin, il me dit « Ah, je suis désolé, j'ai supprimé mon compte alors que je viens de prendre un abonnement parce que je me suis emmêlé les pinceaux, je voulais changer de numérotation, mais je trouvais pas comment le faire, et du coup, j'ai supprimé mon compte, comment on peut faire, s'il vous plaît ?» Et en fait, en 10 minutes, j'ai répondu « Bah ok, bah t'inquiète, recrée un compte avec ça, pour mets ce code, et ton compte, tu vas pas perdre ton abonnement, t'inquiète pas, tu vois. » Le mec, il a dit « Ah !» Bah, je pensais pas avoir une réponse aussi rapide, c'est pour ça que j'ai supprimé mon compte. Et en fait, pour lui, un samedi, il n'allait pas avoir de réponse au support, tu vois. Mais non, en fait, un mec qui fait sa compta, il le fait le dimanche, le jeudi, le vendredi, il a pas de jour. Et c'est pas à nous de dire, bah, on est off pendant deux jours, mais c'est à nous d'être là, même quand ils font justement leur compta et leur gestion le samedi dimanche, tu vois. Et parfois, il y en a qui, si moi je suis pas au support, et ça m'arrive encore de répondre à des messages, hein, de toute façon, encore aujourd'hui, parce que c'est hyper important de savoir, en fait, les questions que les gens posent. Et parfois, bah, il est 22h, un samedi, je passe au support, je réponds, et c'est comme ça, tu vois. Et je vais pas m'empêcher de répondre à un message parce que il est 22h, tu vois. Et la personne est bloquée, en fait. Donc, si elle est bloquée, bah, je lui apporte une solution et elle est contente. Et ça, c'est hyper important pour moi de chouchouter ses utilisateurs au maximum pour créer cette relation de confiance avec eux, quoi.
Oui, du coup, toute cette relation de confiance, je pense que ça s'est plutôt bien propagé, surtout que les freelances, c'est quand même une communauté qui est assez forte et qui est assez engagée, qui partage beaucoup. Et ma question, du coup, c'est comment est-ce que vous êtes passé d'avoir vos premiers utilisateurs, donc bêta-testeurs, vous arrivez, vous avez quelques utilisateurs, à devenir une espèce de référence pour les freelances sur ce marché qui est au final, c'est vrai que quand tu regardes ça, il n'y avait pas vraiment de solution déjà en place. Donc, voilà, comment est-ce que ça s'est diffusé et à quelle vitesse t'as vu le. Et s'il y a aussi eu des points d'inflexion dans la croissance ou à des moments clés, tu t'es dit, ah là, il y a eu un gros pic. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée la croissance en termes de nombre d'utilisateurs et nombre de freelances?
Mais c'est vrai que quand tu lances une boîte, t'es à la recherche d'utilisateurs, donc tu fais tous les moyens imaginables et possibles pour faire ça. Et à la différenciation d'une autre boîte normale ou d'une start-up, on va dire, c'est que j'avais pas 1 euro pour lancer le produit. Ça veut dire que j'avais tout investi dans le développement, j'avais tout investi dans le branding, dans tout ce qu'on pouvait faire avant, mais j'avais pas du tout d'argent pour faire un lancement, en fait. Et en fait, c'était un mal pour un bien, parce que ça nous a vraiment permis de toujours améliorer l'outil, parce que quand on l'a le 31 juillet, il n'était pas du tout comme aujourd'hui, et il y avait plein de bugs, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, enfin, il y avait des trucs à améliorer, et c'était vraiment ça qu'il fallait. Donc le but, c'était vraiment de lancer ce produit, mais surtout d'amener des fonctionnalités qui vont permettre d'être virales. Et donc on s'est vraiment positionné en mode toutes les techniques de gros hacking possibles et imaginables pour aller faire de l'acquisition gratuitement, parce que j'avais pas ce budget marketing, quoi. Donc on a fait énormément de choses, on a fait énormément de one-to-one, on a fait beaucoup de messages automatisés, on a fait beaucoup de cold emailing, mais à chaque fois, en fait, on essayait d'innover sur cette partie-là. Ça veut dire que en cold emailing, par exemple, je me souviens, j'avais fait un truc où il y avait un mock-up de Mac et j'avais une liste de freelance avec leur site web, et mon outil permettait de prendre une capture d'écran de leur portfolio et l'intégrer dans mon mock-up. Et donc ils avaient leur portfolio dans mon mock-up hyper stylé avec un message qui disait: hello Antoine, j'ai vu que ton portfolio il est top, nous on aide les freelances à gérer leur activité, est-ce que ça t'intéresse qu'on discute, tu vois. Et en fait, c'était tous ces genres de messages qui étaient hyper bien faits et qui passaient pas pour des gros spammers. Et on s'est toujours dit, bah ok, on fait les techniques un peu bancales, par contre il faut que ça soit bien fait et innovant. Et les gens, en fait, ils me répondaient waouh. Il me répondait, bah en fait, oui, je sais que c'est automatisé, j'ai pas envie de répondre, mais en fait, wow, parce que je réponds parce que c'est innovant, tu vois. On a essayé de faire pas mal de choses comme ça pour faire connaître le produit. Et donc là, on a commencé à avoir pas mal d'utilisateurs. Et en fait, en 2017, quand on a lancé cette landing page, on a lancé aussi notre blog. Et ça, c'est hyper important, je pense, que pour tout fondateur de projet et créateur de quoi que ce soit, c'est d'avoir son blog dès le départ, parce que avant, on n'avait pas le produit encore, mais on pouvait que communiquer là-dessus, quoi. Donc on avait que ça à communiquer, et donc on balançait des articles qu'on écrivait à tout bout de champ sur plein de groupes, sur plein d'espaces en ligne et tout, parce qu'on apportait de la valeur avec nos articles, et en plus ça fait connaître le domaine, et donc Google il aime bien voir que ça fait 3 ans que tu mets des articles à jour tous les jours, et donc on a aussi joué là-dessus. On a communiqué avec ces beaux articles qu'on pouvait diffuser un peu partout. Et donc ça nous a ramené pas mal de gens aussi, puisqu'ils tombaient sur l'article, et après ils tombaient sur Freebie et ils s'inscrivaient. Donc on a beaucoup utilisé cette technique. Et puis...
Et en plus, étant freelance à la base, t'as pu avoir une tonne de questions déjà en tête, et même avec toutes les interviews, etc., pour créer du contenu. Et voilà, et jamais manquer d'idées, et toujours savoir bien cibler les bonnes questions pour peut-être ressortir plus facilement dans Google et dans les moteurs de recherche.
Bah, c'est exactement ça. Oui. J'avais pas mal de contenu déjà de base. Moi, je m'étais beaucoup intéressé au SEO aussi, donc j'avais quand même quelques compétences, et c'était ça qui, c'est exactement ça. Tu vois, j'avais beaucoup de contenu à créer. Et après, en fait, on a tout de suite mis en place, avant de développer des features hyper importantes pour Freebie, on a développé des features de parrainage. De mise en relation, donc enfin de parrainage, pardon. Donc en fait, on permettait aux utilisateurs de parrainer un ami et d'avoir un mois offert quand la personne s'inscrivait avec son code et passer à un abonnement payant. Et dès le départ, en fait, et toutes ces fonctionnalités-là, c'est pour moi, c'était vital parce qu'il faut de la viralité. Et si c'est pas possible de le faire, bah en fait, les gens n'en parlent pas et les gens ne partagent pas leur code. Alors que la meilleure des publicités, c'est ses propres utilisateurs au final, puisque c'est eux qui ont les bons mots, c'est eux qui savent pourquoi ils sont venus, c'est eux qui en parlent. Et quand t'as un pote qui te dit que c'est un outil qui kiffe et qu'il est dessus, bah en fait, tu t'hésites même plus à le tester. Et donc on a aussi beaucoup utilisé le parrainage pour diffuser ça. Et le troisième gros point, c'est plus toute la partie gestion des influenceurs, où on a aujourd'hui beaucoup d'influenceurs, je peux pas dire le nombre, mais on a un paquet qui gère en fait toute la relation influence freebie et qui permettent en fait de créer du contenu pour nous. Et donc on a énormément de gens, quand tu tapes freebie sur Google, la plupart c'est du contenu influenceur qu'on n'a pas payé, mais qu'on a en fait, on fait de l'affiliation avec eux, donc en fait on paye que sur ce qu'on gagne. Et donc ça nous permettait de maîtriser grave nos coûts d'acquisition et de savoir que bah ok, on peut payer cette personne là parce qu'il nous a ramené tant de personnes.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, en plus ça tombe plutôt bien sur cette cible là en particulier, parce que j'ai remarqué que les freelances, c'était quand même une typologie de personnes qui étaient plutôt enclins à faire quelque chose d'autre à côté, à avoir des side projects, à créer du contenu. Et du coup, je suppose qu'il y en a pas mal, ouais, qui étaient prêts à créer du contenu pour vous. Et en plus, ils aiment bien le produit, je vois pas pourquoi ils gêneraient pour le faire. Et en plus, si vous leur rétribuez une commission ensuite, c'est tout bénef pour eux et tout bénef pour vous.
Bah, c'est ça. Et puis, c'est surtout le modèle parfait, en fait, parce que quand tu fais de l'acquisition, tu vas mettre 10 000 euros de pub Facebook, bah en fait, tes résultats, au tout début en tout cas, tu peux pas savoir comment ça te rapporte réellement de la pub Facebook. Donc tu vas mettre 10K, tu vas mettre 20K, puis 30K, puis au final tu vas dire que ça t'a récupéré tant de personnes, et tu te dis, waouh, quoi, j'ai dépensé mes sous hyper bêtement, quoi. Alors que tu connais même pas encore vraiment ta cible, tu connais même pas encore tout ça, ton coût d'acquisition. Et en fait, le fait de faire de l'affiliation comme ça, c'est que, comme tu dis, tu vois, tu redistribues que sur ce que tu gagnes. Donc, si t'as pas encaissé, t'as pas à sortir l'argent. Et si t'as encaissé, c'est que tu as l'argent pour le faire. Et en plus, tu maîtrises le coût. Donc, au final, c'était tout bénef, quoi, parce que c'était vraiment, ça permettait de maîtriser énormément les coûts d'acquisition. Et aujourd'hui, on a je sais pas combien d'inscriptions par jour grâce à chaque influenceur différent. Multiplié par le nombre d'influenceurs, ça fait un paquet de gens qui s'inscrivent tous les jours. Et c'est l'effort qu'on a mis il y a longtemps, et aujourd'hui c'est eux-mêmes ne font pratiquement pas l'effort qu'ils faisaient avant, et ça tourne tout seul aussi pour eux, tu vois. Et donc ça, c'était hyper important de mettre cette relation là, parce que pour moi, quand t'as un outil, ou quand tu veux tester un produit, bah si le mec que tu suis sur le freelance, il l'utilise. Si elle l'utilise, si l'influenceuse, elle l'utilise, que les gens que tu suives, tu l'utilises, tu te dis, mais pourquoi pas moi, en fait? Ils l'utilisent tous, qu'est-ce que je fous, quoi? Et je voulais vraiment mettre ça dans la tête des gens, c'est que, bah, en fait, s'il y a plein de stars qui utilisent Freebie, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, bah, autant se concentrer sur ces personnes-là, pour qu'ils puissent diffuser à leur audience, et surtout mettre de la crédibilité au produit. Parce que si X, Y et Z utilisent, bah, pourquoi pas moi, quoi?
Ouais, ok. Bah c'est, ouais, je trouve ça hyper intéressant comme vision des choses, et au final ça, enfin, vous avez eu des bons résultats, parce que en tapant Freebie, j'ai trouvé énormément de contenu, oui, sur Freebie, donc c'est que ça doit être une plutôt bonne stratégie. Maintenant, j'aimerais plutôt revenir sur votre structure de boîte actuellement, et un peu comment est-ce que vous êtes organisé en tant que boîte. Et ma question peut-être, c'est, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe, de qui fait quoi, et du recrutement, si vous recrutez, voilà, un peu quelle est votre stratégie aujourd'hui pour vous établir en tant que boîte.
Yes. Bah, du coup, aujourd'hui, c'est une SAS, parce que du coup, au final, je me suis associé avec Guillaume, le développeur, un peu plus tard dans la structure, mais on s'est associé plus tard. Et on a un troisième associé, parce que depuis le départ, c'était de l'autofinancement. Donc j'ai vraiment tout réinvesti, j'ai fait des prêts, des subventions, des trucs de tous les côtés. J'ai vendu pas mal de prestations de design aussi pour refaire de l'argent dans Freebie. Jusqu'à début d'année 2020, on était en autofinancement, et on a eu un business angel, mais c'est trop dur comme terme, parce que moi je suis pas du tout levé de fonds et pas du tout comme ça. C'est plus un partenaire financier qui a misé à 100% sur moi et mon projet, et qui avait envie de donner un coup de pouce parce qu'il adorait ma vision du produit et de comment on voulait le faire partir, tu vois. Et donc du coup, il a mis de l'argent dans Freebie, et ce qui nous a permis de pouvoir développer encore plus et pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'avant. Mais c'était vraiment un petit coup de pouce à ce moment-là. Et donc, en fait, il est associé aussi. Donc, on est aujourd'hui 3 associés dans la structure Freebie. Et lui, il a une énorme agence de marketing digital. Il s'y connaît très, très bien dans la sphère web. Et il est de très, très bons conseils. Et il nous apporte beaucoup aujourd'hui sur Freebie parce que c'est vraiment l'entrepreneur, en fait, de qualité qui est justement un entrepreneur qui a gagné son propre argent et qui le réinvestit dans des boîtes auxquelles il croit. Et c'est pas un mec qui est sorti de 20 ans de chez Peugeot et qui sait plus quoi faire de son argent avec un gros chèque et qui investit n'importe où des petits montants. C'est plus vraiment un entrepreneur de qualité qui est passé par mes propres problématiques pour lesquelles je passe et qui était et voilà, c'est le genre de profil en fait que je cherchais pour Freebie. Et après on a une personne qui s'occupe de notre support client. On a eu la chance d'avoir Jonathan Lefebvre qui s'est occupé de notre support client pendant un moment sur la partie support qui lui faisait partie de Trendline avant et qui s'est fait débaucher par une belle startup, donc il nous a quittés. mais du coup, on a son acolyte qui est resté avec nous, Guillaume Joanneau, qui s'occupe de toute la partie support client et qui s'occupe très bien de ça. On a donc le psychologue ergonome qui s'occupe de la recherche utilisateur chez Freebie, qui s'occupe toujours de Freebie, donc il n'est pas à temps plein, mais il bosse plusieurs jours par semaine parce qu'on fait des grosses sessions de recherche. On a du coup 3 devs et on a 2 personnes qui s'occupent de nos réseaux sociaux et du marketing sur Freebie.
Ok, donc ça fait une équipe d'à peu près 10 personnes si je compte pas trop.
Ouais, on est 8, ouais.
Ok, donc ça reste une équipe à taille humaine et justement tu as parlé de cet aspect là de pas forcément aller lever des fonds. Est-ce que c'est quelque chose qui est pas dans enfin, on a bien compris que tu avais plutôt un profil à bootstrapper puisque depuis le début t'as un peu bootstrappé ton produit, mais maintenant que t'es suffisamment établi, est-ce que c'est quelque chose auquel tu songes ou non, tu gardes t'as pas forcément besoin et t'as pas forcément l'envie également?
C'est un peu des deux. C'est vrai que c'est comme tu l'as dit, on était vraiment sur le côté bootstrap et je pense qu'aujourd'hui, quand t'as tes propres fonds, tu fais des choix que t'aurais pas du tout fait avec des fonds. Et c'est con, mais t'es radin, tu utilises de l'argent où il y en a besoin, tu crées pas des postes parce que t'as levé des fonds, tu prends des gens vraiment parce que t'en as besoin sur ces créneaux-là. Et en fait, on a tout ce truc aussi où nous, on voulait vraiment créer un produit pour aider les gens à sortir de la galère administrative avant d'acheter des pulls et de passer sur BFM, parce qu'on, enfin, c'était vraiment l'idée, c'était vraiment de créer un produit utile aux gens et ensuite après d'aller accélérer. Et donc on voulait pas en fait être bridé par cet investissement dès le départ qui n'aurait pas pu faire les choix aujourd'hui qu'on a fait. Et typiquement, j'aurais jamais pu passer des millions d'heures avec mes utilisateurs au téléphone pour faire des entretiens utilisateurs pendant 2 ans parce que mes investisseurs m'auraient dit mais t'es complètement malade, tu perds du temps, c'est pas ça la valeur, machin. Et tu vois, on aurait été trop bridé par plein de trucs qui font le succès de Freebie aujourd'hui, tu vois. Et c'est ça qui est complètement fou, c'est que un investisseur de 50 ans, tu dis ça, il te voit pour un ovni et il dit que t'es pas ambitieux, tu vois. Et alors que on voit qu'aujourd'hui il y a quand même des nouvelles boîtes qui sont en train d'émerger et des nouveaux courants de pensée par rapport à ces startups là, qui sont des startups plutôt éthiques et pas dans justement dans l'image et le fake, enfin le faux, tu vois. Et c'est ça en fait qui est un peu bancal, c'est qu'aujourd'hui on a plein de boîtes où si c'est une startup, tu dois lever des fonds, tu dois avoir 50 collaborateurs, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois passer sur BFM, tu dois avoir ça, tu dois avoir ci. Et en fait, c'est des mœurs qui sont établies dans cette sphère de l'entrepreneuriat, mais qui ont été qui sont pas fondées, quoi, qui sont parties dans cette direction. Et du coup, si t'es pas comme ça, t'es pas une startup et t'es pas ambitieux, quoi. Donc c'est complètement dément, tu vois, d'avoir ce truc. Et nous, c'est vrai que c'était pas trop notre vision de l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, on pourrait lever, mais voilà, on se réserve de pas le faire. Et si on lève des fonds, ça sera pour ouvrir d'autres pays, s'installer autre part, des choses qu'on ne peut pas faire et du luxe qu'on se prendra en plus. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de lever des fonds et on a, voilà, on n'a pas envie en fait, on a surtout pas envie d'upgrader trop vite. Moi, c'est ma première boîte. Demain, si j'ai 2 millions d'euros sur mon compte, je ne saurais pas du tout le gérer comme aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc où j'ai envie de passer les étapes une par une et pas avoir de saut d'étape qui pourrait peut-être me faire passer à côté de choses extraordinaires ou de choix que je pourrais pas faire aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qui me bloque à lever des fonds aujourd'hui. Mais on voulait vraiment être libre et pouvoir faire ses propres choix et de lever quand on a envie de lever et pas parce qu'on est obligé et de prendre des gens qui ne partagent pas nos valeurs dans le projet, quoi. Ça, c'est super important.
Donc préférer une croissance bien organique, bien établie, plutôt que de la doper à coup de centaines de milliers d'euros ou de millions.
C'est ça, parce que c'est vrai que le problème avec ces acquisitions rapides, c'est que tu fais un pic, donc t'es famous, donc il y a beaucoup de gens qui cherchent ça, mais c'est pas nous ce qu'on cherche aujourd'hui d'être passé à la télé, mais c'est t'es famous, tu fais 10 000 utilisateurs, enfin 100 000, je sais pas combien, et du coup tu fais un pic, et en fait sur les 100 000, t'en as 50% qui sont pas contents de ton service, parce qu'ils ont été attrapés par une pub, mais d'ailleurs tu suis pas, t'as pas de service client, il y a pas d'expérience, le produit n'avance pas, et donc du coup t'es dans une sphère où t'as plein d'utilisateurs, mais t'as plein de haters, et en fait c'est un peu l'analogie la comparaison du béton armé. C'est que nous on est en train de faire des fondations avec du béton armé, et au moindre coup de vent ça va pas tomber, tu vois. Et donc du coup, si tu fais de l'acquisition en ads, c'est pour moi c'est des immeubles en carton, tu vois. C'est que le moindre petit truc qui peut se passer, tout tombe et tout s'échappe, et tout ce que t'as mis comme un investissement et comme budget part en fumée pour une chose que tu peux pas maîtriser, et c'est ça aussi qu'on voulait, c'est que pouvoir maîtriser l'acquisition, pouvoir maîtriser le budget, pouvoir maîtriser et faire un socle où aujourd'hui on a créé une communauté, et c'est pas des utilisateurs, c'est des gens qui participent à notre communauté Freebie avant de s'inscrire, tu vois. C'est vraiment ça, qui partagent les mêmes valeurs que nous, et donc on a vraiment créé un socle solide d'utilisateurs pour durer dans le temps et pas revendre l'année prochaine.
Et d'ailleurs, c'est une question qui est un peu liée. Quels sont un peu vos projets et les trucs sur lesquels vous êtes en train de travailler en ce moment pour améliorer encore plus Freebie et attirer de plus en plus de freelances?
Du coup, aujourd'hui, on est en train de revoir une nouvelle version, notamment en termes de design et d'expérience, pour vraiment rendre cohérent totalement l'interface, parce qu'aujourd'hui en off, pour moi c'est un méga MVP amélioré où on a embriqué de feature en feature par dessus, qu'on a rajouté, qui n'était pas forcément pensé au départ, qu'on a du coup imbriqué dans le produit, qui fonctionne très bien mais qui sont pas à sa place. Par exemple, le time tracking, il se comporte pas du tout pareil que toutes les autres pages de l'interface. Donc tu vois, on s'est aussi mis cette liberté de tester pas mal de choses. Mais donc là, on est en train de revoir Freebie avec un design system qui est hyper clean, hyper clair, avec des enchaînements de pages qui sont totalement différentes. On a revu tous les workflows, on a revu tous les parcours et tout, pour que ça soit vraiment tous les retours qu'on a eu depuis le départ qu'on améliore dans la nouvelle version. Et en fait, on a décidé, nous, d'ouvrir que pour les auto-entreprises à la base, parce qu'on voulait pas faire un énième outil de facturation qui soit pour tout le monde. On voulait vraiment développer par statut pour être le plus qualitatif possible et automatiser tous les statuts possibles. Et donc là, en fait, une grosse demande, parce qu'aujourd'hui, c'est que les utilisateurs en micro-entreprise, ils commencent sur Freebie, et quand ils dépassent les seuils et qu'ils doivent sortir de la micro-entreprise, ils peuvent plus utiliser Freebie. Et ils nous envoient des mails à rallonge en mode « s'il vous plaît, sortez la version pour ma boîte, je veux pas passer sur autre chose, c'est impossible, j'ai goûté Freebie, je peux plus retourner en arrière », en gros. Et donc du coup, nous, on est en train de développer ça, c'est-à-dire qu'on va ouvrir à tous les types d'auto-entreprises, ceux qui font aussi de la vente comme toi, et du coup, de pouvoir intégrer tous les auto-entrepreneurs différents, et ensuite d'intégrer toutes les structures d'indépendants dans Freebie. Donc pouvoir les accompagner aussi après l'auto-entreprise et pouvoir adresser une cible qu'on n'adresse pas aujourd'hui, qui sont ceux qui sont déjà en entreprise individuelle, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment un gros, gros chantier sur lequel on est en train de bosser, qui va sortir normalement à la fin du premier trimestre 2021. Et du coup, là, on aura vraiment, en fait, on passerait de 1 à 3 millions de personnes potentielles à toucher, puisque on toucherait l'intégralité des freelances et on n'aurait plus de barrières, en fait, par rapport au statut, par rapport à ces choses-là. Donc ça va faire un gros gap, je pense, pour Freebie, parce que voilà, on va multiplier par 3 directement le marché, et surtout après on va intégrer beaucoup plus les clients des entreprises pour vraiment devenir la plateforme de productivité entre les entreprises et les freelances. Et que quand aujourd'hui tu crées un projet avec un client et tu dis on crée un Slack, moi je veux qu'on crée un Freebie et que tu invites ton client dedans et que tu puisses échanger, partager des fichiers, et que ce soit vraiment une plateforme de référence entre les entreprises et les clients. Et en fait, on peut se le permettre parce qu'on a déjà les freelances, contrairement à une boîte qui voudrait faire ça que pour les entreprises entreprise parce que tu n'obliges pas un de tes freelances à passer sur ton outil de facturation pour gérer son activité s'il n'est pas lui-même propriétaire, enfin utilisateur de l'outil de base. Tu
vois. Et d'ailleurs, j'ai vu que, chose qui est un peu liée, j'ai vu que vous mettiez aussi en avant sur votre site un peu des perks ou des bons plans, on va dire, de d'autres boîtes, d'autres services pour les freelances. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler encore plus et apporter toujours plus de valeur aux freelances ou c'était juste comme ça parce que vous pensiez que ces bons plans pouvaient potentiellement les intéresser?
C'est exactement ça. On voulait vraiment amener, en plus des services connexes à Freebie qui pourraient leur servir tous les jours dans leur activité de freelance. Et par contre, on voulait pas faire un espèce de CE du freelance. On voulait pas faire un truc avec 10% chez Pierre et Vacances, bien que ça doit être super, mais on voulait vraiment utiliser des services qu'on a nous-mêmes pratiquement utilisés tous, ou quelqu'un de la team a testé, et qui soit vraiment utile à l'activité, et qui ait une expérience qui soit digne de ce nom, qui ait vraiment une bonne expérience de communauté ou d'interface. Et donc c'est pour ça qu'on a négocié pas mal d'offres avec des services pour freelance, mais on n'en a pas 50, on en a une quinzaine, vingtaine aujourd'hui, parce qu'on veut vraiment maîtriser aussi ça, et que ça soit, qu'on propose un outil, c'est qu'on l'a testé, on l'a validé par Freebie, et que vous pouvez y aller les yeux fermés pour l'utiliser, quoi. Et donc ce qui est assez cool, c'est qu'on a du InVision, on a Open Classroom, on a Conto, on a CityScoot, on a WeMind, on a pas mal de boîtes en fait qui sont vraiment utiles pour les free aujourd'hui dessus, quoi. On a Luko aussi. C'est vrai qu'InVision, je suis assez content parce que j'y suis allé au culot, j'ai mailé les fondateurs et j'ai eu une réponse et on a mis en place un code et je m'attendais pas à leur réponse tout de suite, quoi.
Ok, bah trop cool. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça hyper intéressant le fait de devenir, enfin, entre guillemets, d'associer son image avec l'image d'autres boîtes qui fonctionnent bien dans tout cet écosystème, parce que même ça peut, ils peuvent aussi vous renvoyer la balle et du coup vous devenez partie de cet échiquier un peu de possibilités qui est offerte aux freelances et voilà quoi, et ce sera Freebie et pas un autre logiciel si vous vous associez avec d'autres acteurs qui font pas la même chose.
C'est ça, et ce qui était assez ouf, et c'était tout à l'heure, c'est pour revenir à ta question de comment on faisait de l'acquisition, c'est que ça a été aussi une source d'acquisition puisque comme tu viens de le dire, on se mettait dans cet écosystème et en fait très vite comme on a été relié par Madines et par pas mal de médias, en fait, ils nous ont mis Freebie au même niveau que des boîtes comme Conto, comme WeMind, comme Open Classroom. C'était Open Classroom, Conto, Freebie, tu vois. Alors que on était deux, on négociait des partenariats et on avait levé 0 €, et ils avaient fait avancer des levées de 20 millions chacun, limite. Et en fait, ils nous mettaient directement à la même place dans la communication des différents supports. Et ça a méga crédibilisé Freebie, quoi. Les gens, ils disaient, ok, en fait, s'ils parlent aussi de Freebie dans la même ligne que de Conto, c'est qu'ils sont au même niveau. Alors qu'on n'était pas du tout au même niveau de développement. Ils étaient beaucoup plus avancés que nous, mais comme ils nous ont parlé au même niveau, ça fait que les gens pensaient qu'on était au même niveau et ça nous a grave crédibilisé et ça nous rapportait pas mal de clients aussi sur pas mal de trucs comme ça.
Ok, d'accord. Et sur l'aspect, parce qu'on parlait un peu de développement et croissance, d'attaquer des marchés étrangers, c'est pas encore quelque chose qui vous intéresse, ou est-ce que vous y avez quand même pensé, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt?
Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Parce qu'on est en autofinancement et qu'on n'a pas les fonds nécessaires pour aller ouvrir autre part. Et surtout parce qu'en fait, on n'a pas fait, on automatise la micro-entreprise à 95% aujourd'hui. Donc, pour faire ça pour chaque statut de chaque pays, c'est l'enfer en fait. Mais on y arrivera. Mais le but, c'est vraiment d'aller dans tous les pays et de pouvoir utiliser Freebie n'importe où dans le monde.
Ok. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous étiez aussi au Village by CA, c'est ça?
Tout à fait.
Je crois avoir vu ça, oui.
Yes.
Ok. Et c'est sympa. J'avoue que j'ai jamais eu de retour sur.
Écoute, très sympa. On se fait accompagner par eux depuis janvier 2020 et ils nous aident sur pas mal de sujets. On a des bureaux du coup dans le 8e à Paris et il y a un bel espace assez cool. Ouais.
Sympa. Et petite question plus par rapport au Covid. Est-ce que le Covid a eu un impact un peu sur votre activité ou que ce soit positif ou négatif? Parce que je suppose qu'il y a pas mal de gens qui sont peut-être mis en freelance parce qu'ils avaient pas forcément de taf.
Mais il y a deux points sur ce Covid. Le premier, c'est qu'on était tous en remote et on est tous en remote encore aujourd'hui. Donc, on a des bureaux à Paris, mais chaque personne a son bureau chez lui aussi. Et du coup, ça nous a pas du tout perturbé sur cette façon-là parce qu'on avait déjà tous les outils de remote possibles. On avait déjà nos process en place et donc ça nous a pas perturbé. Par contre, ce qui nous a perturbé, c'est que nous, on a autant de photographes de mariage que de designers ou de développeurs, tu vois. Et donc, du coup, un photographe de mariage, il a pas de taf jusqu'à l'été prochain, quoi. Et donc on a pas mal de gens qui ont arrêté leur activité, pas mal de gens qui ont pas pris Freebie parce qu'ils avaient pas de visibilité sur leur taf, pas mal de gens qui ont pris des abonnements mensuels au lieu de prendre des abonnements annuels. Donc en fait on a eu une perte comme ça de chiffre d'affaires assez conséquente, de croissance en tout cas, en mars-avril, mais après ça a commencé à remonter et en fait c'est juste pour le futur. C'est ce qu'on est complètement ignorant, parce qu'on sait pas du tout si ça va être totalement boule de neige où bah justement il y a plein de gens qui vont se mettre en freelance, ou est-ce que le nombre de gens qui vont fermer, ça va pas déjà nous réduire notre nombre d'utilisateurs et surtout réduire le nombre de gens qui vont au final être en freelance, parce que s'il y en a plus qui ferment qui ouvrent, c'est un peu relou. Et donc en fait on sait pas du tout comment va se passer quand il y aura plus d'aide, parce que là les gens ils tiennent juste pour les aides, hein. Les photographes de mariage qui gagnent 1 000 € tous les 3 mois, ils survivent grâce aux aides, hein. Et du coup, bah, quand il y a plus d'aide, on a peur que il y a beaucoup de gens qui arrêtent leur activité de freelance. Mais on a quand même tout ce socle en fait de gens, dev, designers et tout, qui n'ont pas forcément été très impactés par ça. Donc, on est complètement ignorant sur ce qui va se passer et on ne sait pas du tout comment ça va se tourner.
Ok, bon bah très cool. Bah écoute, je te propose de passer rapidement. Petite question de la fin, c'est des questions un peu rapides, plus sur toi du coup.
Ouais.
Première question, c'est je voulais savoir qu'est-ce qui te drivait le plus au quotidien. Donc qu'est-ce qui t'a fait lancer Freebie? Est-ce que c'était plus pour créer un gros projet? Est-ce que c'était plus pour être libre? Est-ce que c'était plus pour faire de l'argent? Voilà, quelle a été un peu quelle est la valeur qui te tire le plus sur ta boîte et même sur ta vie au quotidien?
Bah, c'était vraiment de pouvoir aider les gens et aider les freelances à ne pas être dans la même situation que moi, à galérer avec l'admin. et quand je me suis lancé en free, j'avais vraiment envie qu'on me dise bah attention, t'auras ça, prends ça en compte, prends ci, prends ça, c'est comme ça qu'on fait sa compta, c'est comme ça qu'on fait sa gestion. Et en fait, il y avait très très peu de ressources à la base. Et du coup, moi, c'était vraiment cette volonté de partager ces acquis et d'apprendre aux gens à comment gérer leur activité pour qu'ils puissent être libres eux-mêmes dans leur activité. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment le côté où j'avais envie de monter ce projet, j'avais envie de monter une boîte, j'avais envie d'être indépendant. Et du coup, j'avais vraiment ce côté drive où je voulais créer un produit qui soit vraiment utile aux gens et qui les aide au quotidien, quoi. C'était vraiment ça qui m'a drivé. Et après, parce que je suis passionné par le sujet et ça a pas de prix, quoi.
Ouais, c'est clair. Non, mais surtout, ouais, je trouve que le sujet est hyper intéressant et tu résous un problème. Enfin, c'est pas un mini problème, c'est vraiment quelque chose qui emmerde profondément la vie des gens. Et je sais de quoi je parle, mais ouais, du coup, je comprends vraiment ce sentiment que t'as de vouloir aider, parce que c'est vraiment c'est vraiment relou et c'était vraiment casse-pied la situation avant pour les freelances.
Mais c'est ça, et surtout les gens aujourd'hui, ils nous envoient des messages pour nous dire merci. C'est tout. Genre merci beaucoup pour cet outil. On a eu des messages typiquement merci beaucoup Freebie, ça fait 6 mois que je vous suis et grâce à vous je me suis lancé en freelance parce que j'ai vu que c'était simple administratif, tu vois, alors que c'était la barrière que je me mettais à l'entrée, tu vois, que des trucs comme ça. Et genre même parfois il y a des petits bugs ou des petits trucs qui comprennent pas les utilisateurs, ils nous ont un message merci beaucoup, l'interface c'est génial, et après ils posent leurs questions ou leurs problèmes ou leur machin, tu vois. Et en fait personne fait ça, tu vois. Moi quand je teste un service, c'est très rare que je félicite les services. Quand ils le sont bons je le fais, mais c'est hyper rare, tu vois. Et donc c'est trop bien à ce niveau là d'avoir ces gens.
Bah après t'as peut-être aussi cette notion de boîte qui est un peu à taille humaine, où t'as plus envie de féliciter ou trucs comme ça et de soutenir que si c'était QuickBooks par exemple ou une grosse boîte américaine.
Bah clairement, et puis on est tous ils ont très bien compris qu'on était tous là pour être authentique et à aider les gens, et ça change complètement la démarche de valeur de la boîte, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est clair. J'avais une autre question, c'est si de toute ton aventure entrepreneuriale qui existe depuis maintenant plusieurs années, qui dure depuis maintenant plusieurs années, quel conseil tu pourrais donner à, je sais pas, un étudiant qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat et que voilà, il est sur ses projets, quel conseil tu pourrais lui donner?
Et bah peut-être s'associer dès le départ. deux personnes compétentes qui sont pas dans son domaine et qui sont et avec qui tu vas pouvoir passer le reste de ta vie et avec qui tu vas pouvoir te marier parce que moi c'est vrai que au tout début quand j'ai lancé Freebie solopreneur tu te fais défoncer de tous les côtés. Les banques ne vont pas te prêter, les gens ils te prennent pas au sérieux, t'as rien monté avant donc t'as rien à montrer. C'est vraiment les trucs qui m'ont mis des bâtons dans les roues, mais j'ai galéré et encore et c'était encore jusqu'à très peu récemment, c'était très galère d'être tout seul en fait pour cette première raison-là, parce qu'on ne fait pas confiance et qu'en fait bah d'un côté c'est aussi logique, il y a une banque, tu leur dis bah si ça va y arriver, t'es dans ta vingtaine d'années, tu dis que ça va y arriver, tu dis vas-y les gars allez-y, faites-moi confiance, t'as rien à montrer avant et en plus t'es tout seul, donc si demain t'as un coup de mou t'arrêtes, tout tombe, tu vois. Et donc ça fait, ça donne pas du tout confiance aux institutions qui sont autour, et surtout parce que t'as trois cerveaux qui réfléchissent en permanence, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai un cerveau, enfin pendant tout le lancement j'avais qu'un cerveau qui réfléchissait en permanence, donc sur le côté design, expérience et tout le reste, mais quand t'as un mec en marketing qui réfléchit en permanence sur le marketing du produit, un mec en dev qui réfléchit en permanence sur le dev et un mec en design qui réfléchit en permanence sur le design, t'as trois cerveaux en ébullition toute la journée qui vont apporter des idées et être vraiment les référents sur ces sujets quoi. Et ça c'est vraiment un conseil que je donne, c'est au moins d'être trois pour monter une boîte avec un dev, un designer et un marketeur quoi. Pour avoir cette base solide et ça ira beaucoup plus vite.
Et puis même moralement, c'est quand même plus facile de prendre tout ce que tu te prends dans la gueule, parce que tu te prends plein de trucs dans la gueule quand t'entreprends. C'est plus facile quand t'es à trois que quand t'es tout seul.
Clairement. Ça, on est d'accord.
Bon, bah écoute, je voulais te remercier pour avoir passé cette petite heure sur le thé au café. C'était vraiment top. J'espère que tous les auditeurs ont appris autant de trucs que moi, notamment sur la vie de freelance. Voilà, donc s'il y en a qui hésitent à se lancer, allez-y, lancez-vous en freelance et allez checker Freebie, parce que c'est vraiment une solution que je trouve incroyable, et c'est pour ça que j'avais invité Antoine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de cette année et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Je fais deux questions en un.
Et bah écoute, encore beaucoup de courage pour y arriver. Non, mais terminer cette année qui est compliquée, c'est vrai que 2020 ça a été un peu galère et c'est vraiment qu'on puisse avancer à fond sur la nouvelle version pour être prêt dès la rentrée 2021. Et en tout cas pour me retrouver sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter sur Antoine Legendre ou sur freebie.me et sur les réseaux Freebie, et je fais pas mal de coucou en story sur Instagram aussi pour montrer les backstage de Freebie, donc n'hésitez pas à suivre le compte Insta aussi.
Ok, de toute façon je mettrai tous les liens en description comme d'habitude, et encore une fois je voulais te remercier Antoine d'être passé, et puis je te dis à bientôt.
Merci beaucoup Théo pour l'invitation, et c'était très cool de pouvoir échanger avec toi. À bientôt.
Ciao.
Et voilà, l'épisode du jour est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner sur Apple Podcasts ou Spotify et à me laisser un avis sur Apple Podcasts, je les lis tous et ils me font extrêmement plaisir. Et si jamais mon contenu t'intéresse, j'ai une grande nouvelle pour toi, je viens de lancer ma chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube qui s'appelle Théo Maréchal, dans laquelle je vais parler de sujets comme la productivité, le no-code et l'entrepreneuriat en général, ça change pas. Donc voilà, si c'est des thèmes qui t'intéressent, pense à bien t'abonner, je mets tous les liens en description. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode sur ce podcast, et garde toujours cette envie d'entreprendre. Salut.